Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h50, comme tous les matins, les grands débats du matin. Cette fois-ci, c'est Alexis Poulain, Elisabeth Lévy. Vos appels, comme tous les matins, aux 0826-300-300. Et n'oubliez pas de commenter nos questions du jour.
Oui, beaucoup de questions, évidemment, beaucoup de sujets. Le pass sanitaire, tiens, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et au 0826-300-300, vous pouvez réagir parce qu'on pose la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes favorable à la prolongation, au prolongement du pass sanitaire jusqu'à l'été prochain? Voilà, on a posé d'ailleurs la question avec Xavier Bertrand. Bon, il tourne un petit peu autour quand même. Hein. Il a du mal à répondre en
il
fait
a du mal
directement.
À dire non. Ah oui.
Non, il dit bon qu'il faut prendre des décisions aussi en fonction un peu des territoires, quoi. Et puis de la situation. Sur une phrase aussi, on a beaucoup insisté dans les dernières minutes également sur la laïcité. Il a écouté votre chronique justement, Alexis Poulain. Il en a parlé. Transmettre les valeurs de la République ou sortir du métier. Cette phrase quand même de Jean-Michel Blanquer est particulièrement forte. Alors vous avez dit tout à l'heure que Jean-Michel Blanquer tapait sur les enseignants tout le temps. Est-ce que c'est vraiment ça? Et Elisabeth va réagir dans un instant.
Il y a un manque de confiance vis-à-vis du corps enseignant de la part de Blanquer depuis le début, on le voit bien. Il y a aussi une façon d'infantiliser, de faire croire que les enseignants ne sont pas à la hauteur de la mission qui est la leur. Je pense que c'est faux. Ils sont formés pour être enseignants. Regardez aussi le nombre de démissions de professeurs et du corps enseignant qui a encore augmenté sous le quinquennat Macron. Il y a un malaise dans l'éducation nationale et Blanquer n'a rien fait pour y remédier. Et ça sert à rien, je crois, des petites phrases comme ça qui servent surtout à gonfler l'ego du ministre, à dire on est très fort sur la laïcité, alors qu'en réalité, les moyens ne sont pas forcément donnés, ni dans les classes, ni. Alors, une formation de 4 ans, bien sûr, sur la laïcité, très bien, évidemment, mais quels sont les moyens donnés aujourd'hui aux professeurs à l'éducation nationale pour justement assurer cette mission de
Elisabeth Lévy.
Bon, d'abord, moi, je peux plus entendre l'expression « valeur de la République », ça me donne envie de bâiller, et surtout, je trouve ça désespérant, parce que c'est devenu... Comment ?
Ouais, qu'est-ce que... Un mot valise, quoi. Ouais.
Oui, c'est, ça veut plus rien dire. La deuxième chose, c'est que j'ai été assez choqué que, si vous voulez, la réaction à l'assassinat de Paty, ce soit de nous dire « il faut former les enseignants à la laïcité ». Comme si le problème venait des enseignants. Il faudrait plutôt former les élèves au blasphème entre nous. Parce que je vous rappelle que le rôle des professeurs, c'est d'abord de transmettre des savoirs. Et ça, évidemment, si vous voulez, si un professeur est anti-républicain, bah... c'est pas terrible, mais en même temps, je veux dire, c'est pas leur boulot de faire de l'idéologie, de la politique, des valeurs de la République. Leur boulot, c'est quand même d'apprendre aux enfants, de les initier aux auteurs, de les initier à ce qui était là avant eux. C'est ça qui me semble important. Et enfin, si vous voulez, quand on dit il faut former les enseignants aux valeurs de la laïcité, enfin à la laïcité, pardon, excusez-moi, je mélange les expressions. La première chose, c'est que c'est à l'institution d'abord de défendre les enseignants. Il y a des professeurs qui sont menacés. Alors j'ai entendu que l'affaire de Marseille se dégonflait.
Oui, parce que au passage, je le dis pour les auditeurs qui n'ont pas entendu, visiblement, c'est un artisan donc qui menaçait le couple d'enseignants
Sur la photo,
à propos d'un litige sur des travaux. Donc,
mais c'est ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'à propos d'un litige sur des travaux, qu'est-ce qu'il fait pour faire peur? Il leur envoie une photo de Paty, ce qui est quand même, excusez-moi, vous êtes prof, vous recevez une photo de Paty chez vous, vous devez quand même, de Samuel Paty, pardon,
Ça veut dire que, évidemment, cette peur concerne quand même aujourd'hui les enseignants, Alexis
c'est,
Poulain.
C'est bien, donc, c'était ce que je disais, c'est que les enseignants aujourd'hui se sentent abandonnés. Ouais. Rappelez-vous, enfin, Samuel Paty, il a été laissé seul alors qu'il avait prévenu sa hiérarchie, et les enseignants le savent.
On lui a même demandé de s'excuser quand même.
Mais on lui a demandé de s'excuser. Enfin, rendez-vous compte. Et aujourd'hui, on a un ministre qui remet une couche en disant « Mais si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, c'est lamentable. » Alors que les professeurs savent très bien que eux, c'est eux qui sont face à élèves. C'était le sens de ma chronique. Eux, ils sont en première ligne. Et personne n'est là pour les aider.
Et alors...
Quand vous avez l'éducation nationale qui, au lieu de faire des textes classiques, va préférer des textes de rappeurs que les jeunes ne connaissent pas parce que c'est des rappeurs qui sont entre deux,
Merci,
trop vieux, etc. C'est lamentable. C'est pas le rôle de l'éducation l'éducation nationale. Donc on n'est pas dans ce débat-là. Et puis je parlais des célébrations qui ont eu lieu en 2020 suite à la mort de Samuel Paty, qui avait été improvisée de manière très brouillonne. Quatre élèves de CM2 qui avaient été cherchés par les gendarmes chez eux. Hein, qu'est-ce qu'ils ont eu? Alors que c'était apologie du terrorisme, hein, c'était pas juste dire à la Ouagbar en classe. Ils ont eu un stage de citoyenneté. Est-ce que vous pensez que ça va changer quoi que ce soit au sein de leur famille? Et là, à Valence, le père de famille qui dit « je vais cramer le lycée », qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer une fois qu'il va être lâché? Vous pensez qu'il va avoir les valeurs de la République dans la tête? Qu'il va soudain se dire « c'est formidable » Non.
Élisabeth.
Cela dit, il y a quand même une chose à dire, mais je ne crois pas que ce soit la phrase du ministre qui peut changer, c'est que c'est vrai qu'il y a encore, ça a dû baisser, mais une certaine proportion de professeurs qui a tendance victimaro, islamo-gauchiste, je dirais, avec des nuances, évidemment, mais attention, faut pas stigmatiser, attention, faut pas les blesser, etc. Mais simplement, d'abord, je ne crois pas que Jean-Michel Blanquer peut ou va lancer une purge dans l'éducation nationale, parce que si on commence à sélectionner les profs sur des critères idéologiques, on va devoir en virer beaucoup. Et donc, si vous voulez, oui, il s'agirait peut-être plutôt de réfléchir un peu plus à la formation des profs et à ce qui se passe à l'université. C'est-à-dire, moi, je suis fasciné par les propos de Frédéric Vidal. Encore une fois, je vous la recevais vendredi, Patrick.
Oui, oui.
Hein.
Donc on verra. On mettra les choses au clair. Allez, on se retrouve dans un instant.
On se retrouve.
On va parler de toutes ces questions, encore bien sûr aussi, du pass sanitaire. Quoi. Est-ce qu'il faut le prolonger aussi jusqu'à l'été prochain? Alors vous dites non. Xavier Bertrand, donc, qui était notre invité tout à l'heure, qui a tourné un petit peu autour du pot, a dit s'il faut le faire, il faut le faire. Quoi. Il faut y aller. Hein. C'est ce qu'il a dit. 0826-300-300, vous nous appelez, vous réagissez. On en parle ensemble.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et comme c'est toujours une bonne nouvelle, quand vous entendez cette musique, et bien vous savez que nous allons pouvoir vous offrir un très joli séjour à Port Aventura pour partir en famille. Vous allez pouvoir visiter avec des sensations Ferrari, le parc Ferrari Land avec Sud Radio, bien entendu, et pas mal d'expériences à vivre. Et vous allez pouvoir partir deux adultes, deux enfants, en trois journées, deux nuits. Et ça, on vous l'offre au 0826-300-300. Et puisqu'Alexis Poulain est là, il va vous porter chance.
Allez, Alexis.
Un chiffre entre 0 et 20.
Le 8.
Le 8e appel.
Le 8, oulala.
Standard. Attention,
rapidement.
Ça va aller très vite.
Allez-y.
0826-300-300. On reconnaît la générosité d'Alexis Poulain tout de suite. Les grands débats.
Alors, vous voulez le tiercer dans l'ordre ou dans le désordre? Parce qu'avec un nom pareil, j'ai raté ma carrière, en fait.
Oui.
Allez, les grands débats. Avant de recevoir Patrice Franceschi, qui sort avec nous, s'il n'en reste qu'une, aux éditions Grasset, qui vient de sortir. On va beaucoup parler, en fait, de la Syrie, des Kurdes, etc., du Congo. Combat qui est mené, Patrice Franceschi, qui va très souvent, évidemment, sur le terrain là-bas, qui va pouvoir nous rapporter en fait des choses de ce qu'il voit. Bien souvent, c'est mieux quand même de parler de ce que l'on voit plutôt que de ce que l'on entend ou l'on regarde en fait à la télévision. Et en l'occurrence, il pourra nous dire en fait des choses, je pense, assez cash. Parlons vrai sur Sud Radio dans un instant. Allez, en attendant, j'avais dit le pass sanitaire. Au 0826-300-300, qui est avec nous? Christine,
bonjour.
Oui,
bonjour
Christine. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour Cécile, bonjour
Bienvenue.
Patrick.
Oui.
Bon, merci. Alors moi, je vais être un petit peu à contre-courant, c'est-à-dire que je suis pour garder le pass sanitaire, parce que l'épidémie n'est quand même, la pandémie, c'est quand même pas terminé, et je trouve qu'il y a beaucoup de relâchement, je veux dire, on fait plus tellement attention maintenant, hein. Le lavage des mains, ça passe un peu à l'as. Les gens s'embrassent, tout ça. Bon,
ça,
c'est peut-être un peu vieux ça, jeu, mais moi, je pense que c'est une petite contrainte par rapport à ce que la pandémie
peut provoquer, quoi. C'est ce que vous voulez dire.
Voilà.
Oui.
Merci.
Alexis Poulain.
Là,
oui.
Vous parlez de gestes barrières. Ils n'ont pas besoin de pass sanitaire pour exister, les gestes barrières. On peut continuer de les respecter. Est-ce que vous avez lu la tribune des maires de Savoie qui critiquent le pass sanitaire, qui veulent l'arrêter, parce qu'ils expliquent dans cette tribune que les enfants, lorsqu'ils font du basket à l'école, il n'y a pas de pass sanitaire. Et le soir même, s'ils sont à l'association sportive, pour aller dans le même gymnase et rejouer au basket, cette fois-ci, il faut un pass sanitaire. Il y a des incohérences partout dans ce pass sanitaire. À un moment, il faut se poser la question s'il est réellement sanitaire ou pas. Moi, je suis contre, pour une simple raison, c'est qu'on met la démocratie entre parenthèses parce qu'on est dans un état d'urgence jusqu'en juillet 2022. Ça fait déjà 18 mois qu'on est dans un état d'urgence. Il n'y a pas de raison d'être dans un état d'urgence où finalement on met entre parenthèses la démocratie et le choix du peuple par rapport à ces mesures qui sont dangereuses, parce que vous avez un député de La République En Marche maintenant qui demande même à ce que l'employeur vérifie si les salariés ont un pass sanitaire ou pas. Ce que fait l'Italie aujourd'hui, hein, ce que demande et l'Italie, vous voyez, les ports sont bloqués, vous avez des Italiens dans la rue. Donc à un moment, il faut des mesures sanitaires justes, mesurer les gestes barrières, la vaccination, etc. Le pass sanitaire, pour moi, c'est quelque chose de dangereux qui nous emmène vers une société de la vigilance qui est autre chose que ce qu'on a connu jusqu'à présent.
Alors, je suis pas, je ne sais pas. Christine, vous avez été convaincue par Alexis ou non, finalement? Parce que j'ai l'impression que oui.
Oui, je comprends tout à fait. Il m'a quand même un petit peu convaincu, parce que c'est vrai que jusqu'en 2022, c'est vrai que ça fait loin.
Bon, jusqu'à l'été, oui.
Moi, je suis dans une petite ville, donc ça pose pas trop de problèmes. On est là avec notre téléphone, on montre le truc, ça va. Évidemment, dans les grandes villes, c'est beaucoup plus de contraintes, je le comprends.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses... moi, je vais pas prendre position pour ou contre le pass sanitaire. La seule chose, c'est que c'est vrai, il y a des incohérences. Vous allez à la terrasse de certains restaurants. Hier, j'ai été pour la première fois contrôlé par la police. J'étais même très étonné, effectivement, carte de police, etc. Et en même temps, vous allez dans des grandes surfaces, dans certains magasins, etc., où il y a beaucoup de monde, il y a une concentration. D'ailleurs, et là, on ne vous demande pas le pass sanitaire. Elisabeth Lévy, on ne lui demande jamais le pass sanitaire.
On apprend que quand vous nous dites que je suis en réunion, vous êtes en fait au café, bon, très bien. Je veux dire, les auditeurs apprécieront.
Bravo. Mais attendez, j'ai le droit d'aller une fois de temps en temps au restaurant pour déjeuner quand même.
Les cafés sont des lieux de vie, des lieux de travail.
Je rejoins quand même un peu Alexis sur une chose, c'est-à-dire c'est pas que ce soit une contrainte invraisemblable de sortir son téléphone, etc., bien qu'à la longue ça finisse par lasser, jusqu'à quand, si vous voulez, va-t-on vivre dans l'empire de la peur? Parce que si cette maladie ne disparaît jamais, on nous avait dit au début faut vivre avec, mais ça c'est pas vivre, de passer son temps à avoir peur, donc si vous voulez, il se trouve que j'ai quand même le sentiment que même si elle reprend un peu, elle est quand même beaucoup moins létale aujourd'hui.
Oui.
C'est ça qu'on voulait.
Oui.
Bon, pour le reste, si vous voulez, même l'idée, moi, des gestes barrières, moi, le masque me rend encore plus dingue que le pass sanitaire, je dois vous dire. Je trouve ça insupportable et je me demande, j'ai l'impression qu'on ne s'arrêtera plus jamais, le pli
c'est
est pris.
Impressionnant, parce qu'on l'a eu pendant l'été, maintenant l'hiver arrive, on va l'avoir et on se dit, mais ouais, quand est-ce que. Enfin, clairement, on est rentré dans un autre monde. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut mettre des lignes rouges par rapport à la société de vigilance, parce que sinon, on va rentrer dans un monde invivable. C'est de la liberté conditionnelle perpétuelle. Et on en prend à perpète.
Non, mais peut-être aussi qu'il faut être vigilant et prudent, quoi. C'est vrai qu'il y a... Il y a un an et demi, souvenez-vous, au début de la crise sanitaire, quand il y a eu le débat en France autour des... est-ce qu'il faut des masques ou pas de masques? Je vous rappelle que les autorités et que beaucoup de médecins spécialistes disaient ça ne sert à rien, les masques. Les Asiatiques se disaient, mais ils sont tombés sur la tête ou pas en France, quand même? On prend en fait des masques et on sait pourquoi et comment ça peut protéger, quoi. Évidemment, ce n'est pas miraculeux non plus en termes de protection, ce n'est pas intégral, mais
ça réduit. Non, Patrick, franchement, vu comment on se sert des masques aujourd'hui, je suis pas sûr que ça protège. On les met juste par peur du gendarme. Enfin, peut-être vous le changez.
Je garde. Ah bah non, mais vous avez le même masque pendant. J'espère que vous gardez pas tous les mêmes vêtements aussi longtemps, parce que sinon.
Bien sûr que non. Je veux dire, mais je garde des masques dans ma poche pour au cas où. Voilà. Non mais franchement, moi je les mets par. Mais juste un truc, c'est que, pardonnez-moi, mais il y a quand même notre rapport au risque. C'est-à-dire, si nous voulons vivre dans une société du risque zéro, effectivement, mettons des armures, cessons de respirer, et là, il y aura un risque zéro. Mais il faut aussi savoir quelle dose de risque nous acceptons pour vivre libre.
Ça,
c'est un choix collectif. Je trouve que là, pour le coup, on peut pas vraiment accuser le gouvernement, parce qu'il y a vraiment une demande sociale sur cette affaire de risque. Si vous voulez, on veut pas en prendre. Et ça, je pense qu'on est quand même dans des sociétés qui sont un peu trouillardes. Voilà.
Bon, eh ben, voilà. Christine, vous êtes encore avec nous
oui,
ou pas?
Oui, je vous écoute.
Alors, qu'est-ce que,
oui, oui,
oui. À l'issue de ce petit débat, ce micro-débat, quel est votre sentiment, finalement?
Je savais que j'étais un petit peu à contre-courant. C'est vrai que c'est un petit peu... on nous prive de liberté, quoi, en faisant ça.
Ouais.
Et donc, oui. Donc, je vais changer mon opinion. Je suis contre le pass sanitaire.
Ah, bravo. Ah, bah... C'est Alexis Poulain qui a fait changer. Bon, allez, merci. Bon, on va
je
continuer.
Je vous remercie et je suis contente de vous écouter tous les matins.
Ben,
voilà.
Merci. Ah. Merci beaucoup. Ouais.
Et vous savez, Christine, que des gens comme vous, il y en a de plus en plus qui nous écoutent régulièrement. On le voit, on progresse en fait énormément. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers d'auditeurs qui écoutent chaque jour Sud Radio ou qui nous regardent aussi parfois.
Moi, je vous suis depuis longtemps quand même.
Oui. Mais non, mais il y en a qui se sont accrochés au wagon ces derniers temps et qui continuent et ça ne cesse.
Lui offrir votre mug Patrick Roger.
Voilà, c'est ça. Avec Cécile. Avec Cécile.
Je l'ai déjà.
Oh
ah, bah, déjà. Attendez. Cécile et Patrick, oui. Et je passe un bonjour amical à Madame Elisabeth Lévy que j'écoute souvent aussi. Voilà.
Ah bah, merci beaucoup.
Elle vous embrasse.
Merci de vos merci.
Avec le masque. Hein, mais alors.
Geste barrière.
Allez, dans un instant. Patrice Franceschi sera avec nous. S'il n'en reste qu'une, c'est un roman, mais évidemment c'est inspiré de beaucoup de choses qu'il a vues et qu'il va pouvoir nous raconter, parce que j'aimerais aussi avoir son regard sur ce qui se passe quand même de l'autre côté là-bas.
C'est
pas
si loin que ça quand même. Deux combattantes enterrées dans la même
Oui, bien
tombe.
Sûr. Quoi. Oui.
C'est très touchant.
Et puis on aura peut-être notre gagnant ou notre gagnante tout à l'heure.
Oui,
dans un instant. Allez, restez avec nous sur
ce radio. On revient dans un instant, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et il est 9h16, merci d'être avec nous. On vous a lancé tout à l'heure un jeu 0826-300-300 pour vous faire gagner un séjour. 3 jours, 2 nuits pour le parc Ferrari Land. C'est pas facile à dire ce matin. Vous allez pouvoir y aller en couple avec vos enfants. C'est le Port Aventura World. Et pour ce faire, nous avons un Aurore qui nous a appelé. Bonjour Aurore.
Bonjour Aurore.
Bonjour. Bonjour à tous.
Comment ça va Aurore?
Eh bien écoutez, très très bien, vu d'avoir gagné, j'ai ma fille qui sera ravie.
Ah, elle est à côté de vous, j'ai l'impression, non?
Oui, voilà.
Et quel âge a-t-elle?
Elle a 8 ans.
Ah, on ne fait pas les enfants de 8 ans.
Mais
j'adore
c'est interdit.
Dire ça.
Non, mais non.
J'adore, ça crée toujours un blanc. Non, on est Aurore, on est ravis de vous accueillir déjà, puis on est ravis de vous offrir ce joli voyage. Je vous l'ai dit, hein, Port Aventura Caraïbes Aquatic Park, vous allez partir quand vous voudrez. Donc vous allez passer 2 nuits, 3 jours. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes là-bas chez vous et on est ravis de vous l'offrir ce matin. Et on vous fait des bisous.
Franchement, merci beaucoup.
Et vous nous appelez d'où
Pour la nouvelle.
Pour la nouvelle, d'accord, très bien. Quel temps fait-il?
Faites-nous un petit brin de météo, là.
Oh, bah écoutez, ça va, un peu frisquet, on va dire, mais il fait beau dans la
ville. Oh, attendez, frisquet, là-bas, pour la nouvelle, non.
Un petit peu.
Eh bien, vous réchaufferez au Port Aventura Caraïbes Aquatic Park. Merci beaucoup.
Et comment elle s'appelle, votre petite fille, qui est juste à côté de vous?
Elle s'appelle Julie.
Julie, ben on l'embrasse, Julie. Hein,
voilà,
elle veut dire un petit mot à la radio?
On peut lui parler, Julie?
Un petit mot à la radio?
Bonjour Julie. C'est tonton Patrick et tata Cécile.
Voilà, c'est ça. Contente d'avoir gagné?
Oui.
Bon, voilà, il n'y a pas école aujourd'hui, visiblement.
Julie, ça c'est un prénom de petite fille qui fait des bêtises.
Non.
Oui.
Eh bien,
allez, on vous embrasse.
Julie, on vous embrasse. Passez un bon séjour. Restez avec nous, il est 9h18.
Merci encore.
Et c'est la suite du grand débat avec un portrait assez sérieux aujourd'hui, puisqu'on va revenir sur une guerre, hein, une guerre Kurdistan, avec ce livre, Une zone de guerre oubliée. Et pour en parler ce matin, Patrice Franceschini, bonjour. Vous êtes journaliste, aviateur.
Non, je suis pas journaliste,
pardon. Ok.
Écrivain.
Vous allez le devenir, aviateur, marin et auteur de S'il n'en reste qu'une aux éditions Grasset.
Oui, alors c'est un roman sur... la terre que vous connaissez si bien, hein, le Kurdistan, quelque sorte.
C'est un roman, parce qu'après 8 ans d'engagement auprès des Kurdes, j'avais écrit un essai chez Gallimard qui s'appelait Avec les Kurdes, un récit Mourir pour Kobané. Et là, après ces 8 années d'engagement auprès des Kurdes, il me fallait vraiment, impérieusement, rendre hommage au féminisme combattant de mes camarades.
Ouais. Voilà. Et pourquoi un roman?
Simplement parce que je pense que, pour un écrivain, toute expérience doit être traduite à un moment donné en conscience, et cette conscience doit devenir à un moment donné de la littérature. Et je pense que seule la littérature, avec cette volonté de toujours dévoiler un pan de la condition humaine à travers des événements, quels qu'ils soient, c'est la chose qui peut laisser une trace. Et je voulais vraiment construire par la fiction un mémorial à mes camarades combattantes kurdes, parce que ce qu'elles ont fait là-bas, et les raisons pour lesquelles elles se battent toujours pour la liberté, est absolument à la fois inimaginable, remarquable et un exemple pour tout le Moyen-Orient et probablement pour nous-mêmes. Dans ce roman, c'est l'histoire d'une amitié absolue entre deux combattantes kurdes, Tekoshin et Gulistan, et qui ont été enterrées à un moment donné dans la même tombe, côte à côte, comme elles avaient vécu. Et en fait, il y a un roman dans le roman qui est une journaliste, pour le coup, Rachel Gazanova, australienne, qui, le roman se passe dans un futur indéterminé, où j'imagine que les Turcs et les djihadistes ont fini par gagner, et son boss l'envoie enquêter sur les dernières combattantes kurdes, ce qu'elles sont devenues. Elle découvre cette tombe, et le mystère commence dès la première page sur qui ont été ces filles, pour quelles raisons elles ont combattu et comment elles sont mortes. Et en enquêtant, ce roman dans le roman, ça va être un roman initiatique pour cette journaliste. En fait, ça va être une sorte de remontée aux sources conradienne en elle-même, pour découvrir en fait sa propre identité en réalité, à travers les rencontres qu'elle va faire en enquêtant, jusqu'à découvrir, lever le voile du mystère, et elle-même basculer de l'autre côté, mais il ne faut pas raconter.
Non, on va pas
voilà, pour les candidats, mais... Oui. Et en fait, le féminisme combattant de ces filles kurdes, qui ont perdu des milliers d'entre elles dans ces combats contre l'islamisme, et ça repose sur des choses qui nous parlent, qui, moi, me parlaient depuis le début de la guerre, en 2012. La démocratie, l'égalité homme-femme, la laïcité, le respect des minorités, choses qui n'existent pas au Moyen-Orient. Et que les djihadistes voulaient faire disparaître. Donc, c'est ce roman, l'histoire de Tekoshin et Gulistan, ces femmes remarquables, exemplaires, c'est le roman, c'est l'éternel combat, finalement, de la liberté contre l'oppression ou de la lumière contre les ténèbres.
En fait, c'est un hommage à des combattantes que vous avez connues,
toujours mes camarades.
Qui sont toujours vos camarades. Alors, vous revenez justement du Kurdistan,
région.
Oui, une fois de plus, oui. Ça fait 8 ans que vous y allez, en fait, régulièrement, au moins, en Syrie. C'est là où a été menée la guerre contre Daesh, la plus forte. Il y a eu Raqqa, là-bas, notamment. Sûr. Ce sont les Kurdes qui ont réussi. Raqqa, on se souvient, pour les gens, c'est de là-bas qu'étaient passés les coups de téléphone pour commanditer les attentats du Bataclan.
En ce moment du procès des attentats du Bataclan, il faut se rappeler que ça a été commandité, préparé, etc. à Raqqa, ville de Syrie, qui était la capitale de l'État islamique en Syrie, et que nos camarades kurdes, garçons et filles, n'oublions pas non plus les garçons quand même, ont été nos alliés pendant un segment de guerre, une campagne militaire qui a duré 6 ans, pour mettre fin au terrorisme islamiste. Et que Raqqa, une bataille qui a duré 5 mois et qui était apocalyptique, je crois que c'était, en gros, j'étais pas à Berlin en 45, mais quand j'étais là-bas à Raqqa, j'avais l'impression que ça devait être quelque chose comme ça. Et on mit fin à tout cela. Mais une fois que ces alliés extraordinaires, ces filles merveilleuses, ont fait le travail et nous ont débarrassé l'humanité de ce premier totalitarisme incroyable auquel a donné naissance le 21e siècle, on les a abandonnés. Et cette faute morale terrible a été doublée d'une faute politique, parce que j'en reviens, et à nouveau on voit bien que Daesh reprend évidemment Daesh, du poil basse, se réinstalle, que les islamistes sont revenus dans les bagages des Turcs.
Un peu comme les talibans en Afghanistan, ils sont en train de renaître.
Complètement, de se réinstaller, puisqu'on a abandonné les seuls combattants qui avaient été capables de les éliminer. Et donc, la vraie question souvent c'est de se demander comment il se fait qu'on perde toutes nos guerres, et peut-être demain encore celle du Mali. Et souvent on les perd parce qu'on commet des erreurs politiques, stratégiques, et surtout on ne sait plus très bien faire la discrimination entre amis et ennemis. Où sont vraiment nos amis et où sont vraiment nos ennemis. Donc les Kurdes sont victimes de tout cela, mais...
Comment on explique ce manque de reconnaissance internationale?
Pour moi, c'est quelque chose d'assez inexplicable, en réalité. Quand Trump prend
la
décision...
Parce que c'est pas que du fait de la France.
C'est une défaite générale, un reflux de l'Occident, globalement. Et après, je veux dire pourquoi j'aime ces filles combattantes et tout cela, et pourquoi je voulais leur rendre hommage dans un véritable roman. En même temps, c'est une fresque épique en 3 actes. C'est ça qui... quand Trump décide d'abandonner les Kurdes, qu'il commet cette erreur inimaginable, de lui on pouvait s'attendre à tout, les Turcs, évidemment, réattaquent, s'emparent à nouveau d'une partie du Rojava, le Kurdistan syrien, réamènent tous les djihadistes, et nous sommes restés tétanisés, sans réponse, et sans avoir non plus la volonté réelle. On a plein de fausses petites volontés, vous savez. Oui. Nos diplomates français sont champions pour ça. Mais quand il faut aller au fond des choses, il n'y a plus personne. Donc, il y a quelque chose d'inexplicable qui tient peut-être, finalement, à ce que nous sommes devenus et que ne sont pas devenus les Kurdes. Vous savez, quand je parle à ces filles...
C'est une question de survie, là-bas aussi.
Mais c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus philosophique. Ouais. Si vous voulez, quand vous n'avez jamais eu de votre vie la liberté, quand je parle à ces filles, nous, la liberté, on n'a jamais connue. L'oppression, on n'a connu que cela. Nous, ce que nous voulons, c'est finalement ce que vous, à une époque, vous aviez au fronton du tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Et moi, je leur dis, c'est vrai que maintenant, chez nous, c'est plutôt la consommation guide le peuple. Voilà. Donc, on est dans des mondes, chaque fois que je fais des allers-retours, on le voit bien, dans des mondes où la liberté ayant été absente doit être conquise et vaut un prix extraordinaire pour lesquels ces filles sont capables de payer le prix suprême. Et là, vous savez, on parle souvent, ce sont des gens très, très instruits, très intéressants, et quand on parle avec eux, j'ai l'impression souvent qu'ils parlent stoïcien. On parle par exemple de Sénèque. Vous savez, Sénèque, même par rapport, tout à l'heure, parliez du masque et tout ça. Le passe sanitaire et tout, ce n'est qu'un avatar parmi d'autres, actuels et modernes, de quelque chose qui dure depuis des milliers d'années. Quand Sénèque disait, il y a 2000 ans, la peur de la mort est le début de la servitude, c'est exactement ça. Les Kurdes, pour eux, la mort n'est pas à craindre, car il y a quelque chose de supérieur à cela, qui est la liberté. Et pour eux, comme pour moi, la liberté est la valeur suprême qui irrigue toutes les autres pour leur donner sens.
Oui, bon.
Voilà, donc c'est pour ça qu'ils se battent.
Et Patrice Franceschi, vous avez l'impression qu'ils sont donc abandonnés par la communauté internationale, ce que vous venez de dire en fait à l'instant, et ils sont menacés par qui aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui...
Parce qu'ils ont combattu les islamistes, évidemment.
Sont leurs ennemis existentiels.
Mais il y a la Turquie aussi.
Et la Turquie les soutient. Les trucs questionnent depuis le début.
Soutient les
djihadistes.
Les djihadistes islamistes,
bien entendu. Leur haine des Kurdes est telle que, et leur mépris que bon. Et puis idéologiquement parlant, ils sont très proches. Donc aujourd'hui, par exemple, parce qu'ils sont quand même encore un peu bloqués par la Russie et les États-Unis pour ne pas tout prendre du Rojava et éliminer, exterminer directement tous les Kurdes, mais leur mène une nouvelle guerre, à laquelle j'ai assisté il y a quelques jours, qui est la guerre la plus silencieuse et la plus insidieuse qui soit, sans avoir besoin de tirer un coup de fusil, qui est la guerre de l'eau. Il faut savoir que la Turquie, c'est le château d'eau de cette région. C'est là que naissent le Tigre et l'Euphrate, normalement les fleuves mythiques de la Mésopotamie. Sur le Tigre et l'Euphrate, et les autres fleuves, ils ont construit des dizaines de barrages depuis très longtemps. Donc ils maîtrisent les débits des barrages
et
qui ensuite vont irriguer le croissant fertile dans lequel se trouve le Kurdistan syrien. Depuis quelques mois, ils ont fermé les barrages à 80%. Ils se sont emparés aussi, en 2019, quand ils ont attaqué les Kurdes, les Turcs, de toutes les stations de pompage d'eau douce. Et ils les ont fermées à 50%. Donc, depuis quelques mois, non seulement l'eau douce pour boire manque, donc toutes les maladies liées à l'eau ont commencé à démarrer, ils n'avaient pas besoin de ça en plus du Covid et tout le reste, mais en plus de ça, l'irrigation ne peut plus avoir lieu comme prévu. Donc, les récoltes à venir vont être peut-être à proportion de 20% seulement de ce qu'elles devraient être, et donc, c'est la façon d'installer disette et famine dans les populations, de les faire plier, de les faire se lever contre leur gouvernement, contre leurs dirigeants, et ensuite, évidemment, de les pousser à l'exode pour nettoyer toute la région.
Les y faire sécher,
le changement démographique que veulent faire les Turcs et les djihadistes. Voilà.
Allez, on va continuer d'en parler dans un instant. Si vous voulez réagir, posez des questions d'ailleurs à Patrice Franceschi, vous pouvez. Vous nous appelez 0826-300-300. La France dans cet engagement, est-ce qu'on est présent sur place d'une manière ou d'une autre encore aujourd'hui? Comment faire pour éviter que Daesh ne se reconstruise et ne se propage en fait de nouveau avec tous les risques que l'on connaît bien sûr, d'autant qu'il y a des liens avec l'Afghanistan en fait de l'autre côté, même si Taliban et Daesh ne s'aiment pas trop a priori, mais surtout aussi avec l'autre branche qui est au Sahel.
À tout de suite, il est 9h29.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h32, revient sur le Kurdistan, je le disais, une zone de guerre oubliée avec Patrice Franceschi, qui est aviateur. Et pour ce livre, S'il n'en reste qu'une, aux éditions Grasset à l'air absolument, qui est un très joli roman, très émouvant, mais sur une guerre qui existe aujourd'hui et qui reste totalement invisible pour l'Occident.
Oui, d'autant plus que dans ce roman, c'est un roman de guerre, c'est un roman vrai, savoir de la peau, si je puis dire. Mais c'est surtout un roman sur les femmes combattantes dans la guerre. Mais le fait qu'elle soit oubliée reste pour moi un mystère, parce que nos intérêts sécuritaires sont liés à ceux des Kurdes. C'est une réalité, pour le coup, on dépasse l'aspect de ce roman, une réalité géopolitique tellement évidente qu'on se demande pourquoi elle n'est pas prise en compte.
C'était un front face à Daesh.
Mais bien entendu, c'était même le front principal face à Daesh, dont les attentats avaient été menés en Occident. Bien, ouais. Donc c'était vraiment des ennemis communs. Donc à un moment donné, on s'en est rendu compte, parce que les attentats nous ont sauté à la gueule tels que vous les connaissez, mais une fois qu'ils ont été un peu oubliés, eh bien on oublie les raisons pour lesquelles on a pu combattre avec les Kurdes et les aider. Bon. Donc c'est pas seulement une guerre lointaine, exotique, qui nous concernerait pour des raisons morales. C'est cela, bien sûr, d'une certaine manière, c'est cela. Mais c'est aussi une guerre dont les intérêts sécuritaires de la France sont aussi importants que ceux des Kurdes.
Alors, mais Patrice Franceschi, il faut préciser, vous dites une guerre, ce n'est pas non plus une guerre en tant que telle, quoi. Elle est un peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure.
À l'heure actuelle, elle a baissé d'intensité.
Elle a baissé d'intensité. Elle est silencieuse à travers, en fait, d'autres actes, comme la guerre de l'eau, bien sûr, et puis une pression, d'une manière ou d'une autre, de la Turquie. C'est Erdogan, l'adversaire, en fait.
La Turquie d'Erdogan est l'adversaire principal, mais allié des djihadistes, des Kurdes et de nous. Mmh. Voilà l'état des lieux. Je me borne à constater les faits. Et là-dedans, il n'y a pas que les Kurdes, d'ailleurs. J'étais la semaine dernière aussi avec les unités combattantes chrétiennes, où il y a aussi beaucoup de femmes, alliées des Kurdes et des Arabes anti-islamistes de la région, les forces démocratiques syriennes. Et je voyais moi-même les pressions que les Turcs régulièrement mènent contre les zones chrétiennes, contre les zones kurdes et les zones arabes non djihadistes, en bombardant régulièrement. Ouais. Quand j'étais là-bas, on bombarde de temps en temps un village, on bombarde une école, on bombarde un cimetière. Donc ils maintiennent une pression en même temps qu'ils font la guerre de l'eau. Et nous restons dans un immobilisme et une sorte de façon tétanisée de regarder le mal qui revient, qui est absolument stupéfiante et qui traduit ce que nous sommes aujourd'hui.
Comment les Kurdes nous perçoivent, en fait, là-bas ? Nous, l'Occident, l'Europe, les États-Unis et la France,
Reprends l'exemple de mes camarades, filles, femmes, combattantes, et Apadja. Elles ont, comme les autres, une façon de regarder le monde et nous-mêmes extrêmement bienveillante. Contrairement aux apparences, on aurait pu les penser qu'ils étaient fous furieux de cet abandon terrible dans lequel on les a laissés, contre toutes les promesses, en plus, qu'on leur avait faites. Pas du tout. Ils disent, vous avez fait des erreurs, on va tous les payer, mais ce n'est pas fini. Donc, nous, on combattra jusqu'au bout. La liberté, on y a goûté. Plus jamais, on ne reviendra en arrière dans l'oppression. S'il vous plaît, changez vos attitudes, revenez, faites quelque chose. Ils sont dans un état d'esprit qui les rend... vous savez, si moi, j'ai aimé ces combattantes kurdes, depuis le début, et les garçons aussi, c'est parce qu'il y a un mélange de... au combat de fureur absolue pour vaincre, et dans le quotidien, une gentillesse est tout à fait étonnante. Oui. Et cet amalgame donne des résultats, voilà.
Oui. Et qu'est-ce que ça donne plus au sud, c'est-à-dire en dessous de du Kurdistan, où c'est la Syrie, en fait, ce territoire.
Le reste de la Syrie,
oui. Oui, le reste, en fait, voilà.
Bachar al-Assad, qui est vraiment un bourreau absolu de tout ce qu'il a fait à son peuple, si on prenait tous ses crimes, grâce aux Iraniens et aux Russes, a réussi à peu près à éradiquer ses propres ennemis, qui étaient islamistes, qui étaient démocrates, enfin tout ce qu'il y avait, sauf dans une poche qui s'appelle Idlib, dans le Nord-Ouest, et encore, grâce aux Turcs, une solide poche islamiste qui se dressera contre les Kurdes à un moment donné, ou contre Bachar, on verra. Mais donc, Bachar, lui, que l'on donnait, erreur toute classique de nos politiques et de nos diplomates, vaincu en 2 ans, en 2013, on n'en parlerait plus, et maintenant, il a démontré ses capacités de résilience inimaginables, comme beaucoup de tyrans. Et actuellement, il a reconquis.
Non, mais alors, il maintient quand même aussi un peu, peut-être, cette paix relative, quoi, non ? Et il maintient sous pression aussi.
Non, il a fait une guerre terrible.
Les islamistes, quoi, non ?
Il avait les islamistes aussi parmi ses ennemis. Ouais. Et aussi toute l'opposition démocratique contre lui au départ. Il a eu. Bon. Il a fait une guerre épouvantable contre son propre peuple, il ne faut quand même pas l'oublier. Et ce n'est pas parce qu'il y avait les islamistes là-dedans que ça l'exonère de ses culpabilités de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, mais il a une capacité de résilience incroyable. Donc, le reste de la Syrie, sauf la poche d'Idlib, est à peu près pacifié. Donc c'est un retour au statu quo d'avant,
ouais.
avec une oppression terrible sur les populations, mais il y a la paix.
Mais où Daesh est en train de renaître alors?
Surtout dans les zones kurdes.
Surtout dans les zones kurdes, ouais. Mais les Kurdes, quand même, ils les ont chassés dans les tunnels, ils ont réussi à les bombarder, ouais. donc ils reviennent quand même.
Ils reviennent simplement parce qu'ils sont arrivés dans les wagons des Turcs,
ouais.
qui ont réattaqué les Kurdes en 2019,
ouais.
au moment où on les a abandonnés. Donc la résurgence de l'islamisme radical, notamment Daesh, mais ils prennent tous les noms,
ouais.
dans le nord de la Syrie chez les Kurdes, est due aux Turcs. Il n'y a rien d'autre. Il y a notre abandon des Kurdes. Donc ça, c'est l'état géopolitique actuel. Et il serait temps de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Là, moi, je me dis, on est revenu à peu près à 2014. Bon, rien n'est encore perdu, mais rien n'est plus gagné. Mais si on continue à laisser faire les choses, les Turcs réattaqueront à un moment donné, déjà avec la guerre de l'eau, ils vont affaiblir complètement les populations et les combattants. Ils réattaqueront et on aura un beau jour à nouveau ce qu'on avait en 2015, c'est un État islamique où il portera un autre nom, il sera fabriqué différemment. Mais il aura les mêmes parrains et les mêmes aides, et cet ennemi occidental, reprenant du poil de la bête, sera à nouveau un de nos grands problèmes.
Ouais. Patrice Franceschi, est-ce qu'il restera un jour des chrétiens dans l'ensemble en fait, de ce Moyen-Orient?
Alors je vais vous dire, quand j'étais avec les unités chrétiennes, alliées avec les Kurdes, là, dans une zone qui s'appelle Tel Tamar, ils ont les Turcs à 2 kilomètres devant eux, vous voyez les drapeaux turcs, etc., qu'il n'y avait pas il y a 2 ans. Tout ça, ça avait été libéré. Et les chrétiens vivaient avec les Kurdes et les Arabes anti-islamistes de manière extraordinairement paisible. Ils avaient restauré toute la paix. Quand vous êtes là et que vous voyez les chefs chrétiens, souvent de jeunes garçons de 30-40 ans, ils ne sont plus qu'une poignée. Ils sont exactement comme les combattants de Kurdes. Pour rien au monde, ils ne quitteront leur terre. Mais, depuis déjà des années, une grande majorité des chrétiens a fui. Ils ne sont plus vraiment qu'une poignée. Mais ce qui est très émouvant et très touchant avec ces chrétiens, mais comme avec les combattants de Kurdes, c'est qu'on sent...
C'est le cas aussi avec l'Arménie.
Comment ?
C'est aussi le cas avec l'Arménie.
Voilà, c'est la même chose. Ce qui est très touchant, c'est que leur détermination à mourir sur leur terre s'il le faut est totale. La presque certitude que c'est ce qui va leur arriver, mais vous prend à la gorge, parce que vous savez bien qu'ils ne pourront pas gagner avec l'abandon total de l'Occident.
Ils sont étouffés complètement.
Ils sont plus que quelques milliers à combattre.
Ouais.
Et j'étais vraiment avec eux il y a quelques jours. Ils disaient, mais pourquoi vous ne faites rien? Parce que nous, on est encore là, on va résister. Mais regardez, on a des fusils, ils ont des canons et des blindés. Ça ne fonctionnera pas. Et quand nous, on aura disparu, vous aussi, vous aurez des problèmes terribles. Donc pourquoi vous ne faites rien? Moi, je sais les réponses que j'apporte. Mais les gouvernements ne les apportent pas. Nos lâchetés, par manque de conviction et de courage, sont inimaginables.
Est-ce qu'il y a une présence française, d'une manière ou d'une autre, en fait, là-bas?
Secret de Polichinelle, on a gardé, comme les Américains, une présence, mais qui est, je dirais, vous savez, quand vous voyez dans les trucs, des traces, quoi, comme on dit, chimiques.
Un peu comme dans les séries dans le bureau des légendes ou autre, on se dit, on a toujours, en fait, des envoyés spéciaux, espions,
etc. Il est bien d'être présent un peu partout, ne serait-ce que pour se renseigner et s'informer, mais il vaudrait mieux y être comme nous y étions avant, pour combattre. Avec les Kurdes. C'est comme ça que la victoire a été donnée. Nos forces spéciales ont fait un travail formidable à Raqqa et ailleurs, avec les Kurdes. Et il y avait d'ailleurs, entre soldats français et Kurdes, vraiment des liens de frères d'armes extraordinaires, un peu comme Tekochin et Gulistan entre femmes.
Il faut occuper le terrain,
Comment ?
Il faut occuper le terrain.
Vous savez, si vous ne l'occupez pas, quand vous avez des ennemis qui sont en expansion, comme les Turcs, qui rêvent à la réinstauration de l'Empire Ottoman, si à un moment donné vous ne les freinez pas, ils mènent leur projet à bien. Et nous avons contre eux, évidemment, ces Kurdes, qui sont capables et qui étaient capables de les freiner et que nous avons abandonnés. Voilà. Donc, s'il n'en reste qu'une, ce roman, c'est un roman féminin et féministe, mais il veut traduire cette situation d'abandon qui est en même temps incompréhensible à mes yeux et aux yeux de l'Occident, mais qui est aussi devenue la faiblesse politique de nos démocraties. Et c'est ça qui est terrible.
Oui. Merci beaucoup Patrice Franceschi d'être venu ce matin nous raconter donc cette horreur que vit le Kurdistan, qui résiste, qui est toujours debout, et elles aussi, les femmes combattantes évidemment là-bas, qui sont exemplaires. C'est aux éditions Grasset. Merci.
Et dans un instant, la France à vos côtés, avec le manque de main-d'œuvre dans la filière équestre. On en parlera avec nos invités. Il est 9h41.